Stéphane Dassé est l'invité de ce podcast, un peu spécial confinement, on va dire, avec la situation en France. Salut Stéphane.
Bonjour Justine.
Alors Stéphane, toi tu as la triple casquette, tu es chef d'entreprise, tu es le patron d'un team et tu es également le président d'une association, donc le terrain de Magesque, le Bud Training Camp. Alors on va parler d'un point de vue sportif dans un premier temps, donc ta casquette de team manager, de patron on va dire, de l'équipe Bud Racing. Comment ça se passe avec l'équipe, avec ton team, comment s'organisent tes pilotes en ce moment?
Ben, ça a été un peu, c'est tombé comme un couperet parce que on était prêt à partir à Castelnau le vendredi, on avait chargé la semi, et le vendredi midi le camion décollait quand on nous a dit que la course s'arrêtait. Donc ça c'est, on n'avait vraiment pas anticipé, on savait que ça risquait d'être compliqué, mais pas ce week-end-là, on ne le voyait pas venir. Et puis donc ben là on a dû organiser un petit peu tout. En deux jours, Mitchell, l'Américain, a commencé à se poser des questions. Est-ce qu'il doit rester ici? Est-ce qu'il doit repartir aux US? Tout ça. Donc, dès que c'est annoncé le confinement, on l'a fait repartir aussitôt là-bas, qu'il ne reste pas fermé chez nous pendant 15 jours. Et puis, tout le monde est chez soi. Tout a été remis en question. Donc, tout est vraiment à l'arrêt. Et il n'y a plus rien qui se passe. Les pilotes suivent un programme à distance que Thierry Van den Bosch, l'entraîneur, leur fournit pour essayer de garder l'activité. Mais c'est très délicat parce que même pour le coach, il sait pas trop quoi leur faire parce qu'on n'a pas de date de reprise. Donc sans date de reprise, on ne sait pas s'il faut les économiser un peu pour qu'ils soient en forme au mois de juin. Est-ce qu'il faut les garder à faire du sport assez poussé pour le moment. Donc c'est vraiment une période où on fait un petit peu mais sans avoir de vue, et donc ça c'est assez compliqué.
Ce que j'allais dire, c'est peut-être le plus difficile parce que le plan, c'est on va dire, c'est de se fier théoriquement à la reprise des Grands Prix qui est censée se faire en Russie au mois de juin. Mais est-ce que réellement vous avez cet objectif-là, ou est-ce que c'est plutôt un plan qui évolue au jour le jour?
Ben, t'as sens, c'est au jour le jour. Aujourd'hui, ils annoncent juin, la première course serait mi-juin. Franchement, moi, j'y crois pas. Je vois pas comment les Russes ils vont essayer d'entrer les Européens dans si peu de temps. Maintenant, on va suivre, mais tout est compliqué parce que même pour les contrats des pilotes, on est obligé de réfléchir. Chez nous, les pilotes ont un contrat jusqu'aux Nations, jusqu'à fin septembre. Ouais. Et ensuite, nous, on reprépare autre chose pour être prêt pour le Supercross à Paris, pour la nouvelle saison. Et puis là, je suis obligé de faire, les sponsors nous envoient des choses pour décaler les contrats aussi. Donc, ils nous ont fait des updates sur les calendriers qui vont maintenant jusqu'à fin novembre. Donc, moi, je leur ai dit que les pilotes, ils sont en contrat avec nous jusqu'à fin septembre. Donc, il va y avoir un problème. Je peux pas m'engager jusqu'à fin novembre. Donc, je suis obligé de demander aux pilotes de faire des reports aussi. Mais tout est compliqué. Ouais. Et en fait, en plus, on fait beaucoup de choses sans vraiment savoir où on va parce qu'on parle de juin. Mais j'espère vraiment que ce sera juin. Mais bon, on est quand même sceptique.
Alors justement, tu parlais d'un point de vue contractuel comme financier. D'ailleurs, ça chamboule forcément des choses de voir le calendrier GP s'allonger. Est-ce que tu penses que la date du 22 novembre en Argentine, comme c'est annoncé pour l'instant, est-ce que tu penses que c'est objectif et réaliste d'envoyer des pilotes le 22 novembre en Argentine?
Pour Ustream, oui. Pour nous, non. Ouais. Nous, à cette période, on a déjà attaqué le Supercross. C'est une partie importante pour nos partenaires et tout ça. Le Supercross de Paris, c'est l'événement de l'année en Supercross en Europe, et puis encore plus pour nous qui sommes français. Donc c'est parti, ça fait partie des éléments vraiment importants. Et si les pilotes doivent être prêts pour cette date-là, c'est difficile de faire des Grands Prix en novembre. Mais comme je dis, on a des obligations aussi avec d'autres partenaires et Kawa Europe et nos pilotes pour bien figurer en Grand Prix et être présents sur toutes les épreuves. Donc là, pour nous, c'est vraiment on est un peu entre deux, on essaye de jongler entre les partenaires, entre le côté sportif, tout ce qui va y avoir, mais je pense qu'il va manquer des week-ends. Et octobre, pourquoi pas, mais novembre, je le vois quand même assez difficile. Les pilotes, ils vont préparer déjà autre chose. Bon, franchement, j'ai du mal à voir comment ça va se goupiller, mais je suis pas super optimiste.
Bon. Alors, Bud Racing, c'est pas seulement un team, c'est aussi et surtout une entreprise. Là, d'un point de vue, on va dire, comment dire, en tant que chef d'entreprise de la société Bud Racing, maintenant, comment est-ce que tu vis les choses en ce moment?
Ça a été un peu pareil. On n'a pas préparé les choses. Ça s'est fait du jour au lendemain. Le lundi, on était au travail et on savait qu'il allait y avoir le discours du président. Donc, on se doutait qu'il allait y avoir un confinement, mais dès le mardi matin, les gens ont dû rester à la maison, et nous, le travail s'est arrêté d'un coup. Hein. On a eu du moment où ça a été annoncé, où les gens ont été confinés, où il n'y a plus un circuit ouvert, plus une concession de moto ouverte avec accès au public. Tout s'est arrêté, donc nous, on est passé, aujourd'hui, on fait entre 15 et 20% du travail habituel. Donc, c'est impliqué. La première semaine, ça a été parce qu'on a fait tout ce qu'on avait en retard, donc les suspensions, les moteurs, toutes les choses en retard à l'atelier. Mm-hmm. Mais une fois que c'est fait, ça, maintenant, on travaille au jour le jour et bon, y a très peu de commandes qui arrivent. Nous, on livre les gens tous les jours à peu près normalement. On a trouvé ce qu'il faut pour les livrer correctement. Et on a un gros stock sur place, donc c'est pas trop un souci pour nous. Mais les clients, magasins étaient enfermés. Les circuits étant fermés, on est vachement liés, nous, à la compétition, hein, au tout-terrain. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe, à part les quelques gars qui retapent un peu leur moto, qui commandent un peu de matériel. Ouais. C'est vraiment très calme. Donc, on fait du rangement, on s'occupe un peu. Mais bon, sur la partie de l'équipe, ça fait beaucoup de monde qui est obligé de rester à la maison. Mmh. Et pour des questions sanitaires et des questions aussi économiques, puisqu'il n'y a pas trop de travail. Hein, donc, c'est spécial, on est toujours habitué à être à fond chez Bud et ça fait un peu drôle. Donc on fait avec, on n'a pas trop le choix, mais c'est quand même une période spéciale. Et le problème, c'est la vue à moyen terme, c'est ça, quoi. C'est surtout ça. Si on avait une vue, on savait qu'il y aurait des traitements dans un mois, trois semaines, un mois et demi. Mais là, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Donc c'est toujours la même chose qui revient, qui est un peu inquiétant.
Ça coupe un peu, mais c'est de retour, impeccable. Du coup, là, l'entreprise Bonne Racing, elle tourne toujours par rapport aux fournisseurs, les livraisons restent assurées. Toi, tu l'as dit, tu as trouvé un moyen de continuer à livrer tes clients en France. Comment ça s'organise?
Ben, nous, la première semaine, on a continué à travailler essentiellement dans tout le nord de l'Europe parce qu'on a fait quand même 50% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc, on a continué à travailler les étrangers. La première semaine, ça a vraiment stoppé en France. Et puis, depuis la semaine dernière, il y en a quelques-uns qui se sont vus obligés de faire quelque chose. Ils peuvent pas rester à rien faire chez eux. Donc, ils ont commencé à recommander. Nous, on livre les professionnels et les particuliers normalement. On s'arrange, on récupère leur numéro de portable pour qu'ils soient bien avertis au moment où on livre les colis. Mmh. Mais ça fonctionne. Donc, les transporteurs passent quand même récupérer, livrer. On va dire qu'on arrive à fournir, mais il se passe pas grand chose. Quoi. Je veux dire, le fait que les terrains soient fermés, que les gens ne sachent pas quand est-ce qu'ils vont rouler, tout terrain, je veux dire, les motos, c'est pas des motos de loisirs ou pour la promenade du week-end, c'est des motos de compétition. Donc dès que l'aspect sportif est stoppé, il n'y a vraiment plus grand chose qui se passe. Donc on est là, on est à l'écoute. Ça nous permet de prendre un peu de temps de parler avec certains clients, donc les concessionnaires, les particuliers qui appellent. Donc on essaie de réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas le temps de penser pendant le reste de l'année. Mais même si on est opérationnel pour travailler, le travail, on va dire qu'il n'est pas là.
Ouais. Et quand tu as les concessionnaires, tes clients au téléphone, forcément qu'ils sont inquiets, j'imagine, mais bon, voilà, quel est le discours qui revient un petit peu de cette situation?
J'étais quand même assez surpris parce qu'on sait que le monde de la moto, les concessionnaires, ils sont quand même, ils n'ont pas des marges énormes, ils travaillent dans des conditions assez difficiles souvent. Et ils sont plutôt assez positifs, ce que j'ai eu au téléphone. Ils font un peu ce que les gens font chez eux. J'ai vu les gens dans l'atelier, ils font un peu pareil, ils remettent toutes les motos un peu à jour, les trucs perso, les choses comme ça, les premières semaines. Ça fait que 2 semaines, donc on n'est pas encore dans une... Pour le moment, ils prennent ça avec encore du soin, ils essayent de trouver des choses à faire, à s'occuper. C'est souvent des petits groupes de personnes, donc des petites équipes. Ils ont mis une partie des personnes aussi au chômage technique, mm-hmm. et restent avec une petite structure réduite. Mais je ne les ai pas sentis trop inquiets pour le moment, ils sont plutôt positifs, mais voilà, quoi, et on essaye de s'occuper.
Ouais, c'est la presse et c'est le confinement qui est repoussé déjà jusqu'au 15 avril, voire plus tard, qui engendrera sans doute d'autres questions, d'autres remises en question et d'autres inquiétudes.
Oui, bien sûr, ben là, il reste donc encore au moins 2 semaines.
Ouais.
Nous, on sait qu'on part pour 2 semaines de plus, donc déjà, ça fera un mois plein. Nous, on a la chance, c'est pas d'être là depuis longtemps, ça fait 25 ans qu'on est là. Donc, on a construit, on est, je veux dire, on est chez nous, on a les reins plus solides que la plupart des entreprises dans la moto aujourd'hui en France. C'est une chance, mais pour tous les clients qu'on a, on s'inquiète un peu pour eux quand même, parce que s'il y a beaucoup de passionnés, des petites structures, et j'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont pouvoir continuer à travailler dans leur passion et que ça va reprendre comme il faut et que l'État lâchera personne.
Bien sûr. Alors, on parlait des circuits qui sont aujourd'hui fermés. Qu'est-ce qui se passe à Majesque en ce moment?
Ben là, on a reçu un tout nouvel engin. Ça, c'est la bonne nouvelle. On avait commandé un tout nouveau chargeur qu'on a reçu. Donc, il est là, tout neuf, tout beau, pour travailler sur les pistes. Mais là, il ne se passe pas grand-chose. La première semaine, c'est pareil. On a pris le terrain, nettoyé, on fait des barrières, rangé un petit peu. Et puis là, le truc, c'est qu'on n'a pas de vue non plus. Mais pour le moment, on refait les pistes, les barrières, on s'occupe un petit peu. Voilà. Mais les gens doivent rester chez eux aussi. Donc, on tourne. Il y a une ou deux personnes qui viennent et qui prennent l'air et qui travaillent un petit peu. Mais c'est pareil, c'est au calme. Là, on commence à réfléchir à des nouveaux travaux à faire, à des nouveaux plans. On doit faire une nouvelle piste en terre. Qui devait attaquer ben, lundi là le 30. Et là bon ben la terre peut pas être livrée donc ça va être reporté aussi mais bon on est en fait je crois que dans tous les domaines dans la moto tout terrain dans le côté sportif on est vraiment tous pareils que ce soit les mécanos du team les employés les concessionnaires les circuits on est tellement liés à la compétition sportive qu'aujourd'hui il y a vraiment plus grand chose qui se passe et on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau et qu'on est tous liés et qu'on travaille toutes les heures avec les autres et les clients ont besoin de fournisseurs, les fournisseurs ont besoin de clients, tout le monde a besoin de terrain. En fait, on se rend compte que c'est vraiment un petit milieu mais qu'on a tous besoin les uns des autres et qu'il y a quelque chose qui s'arrête comme ça, c'est tout le monde s'arrête donc ça fait un peu bizarre. Mais bon, au terrain, on s'occupe. On aimerait, moi je réfléchis déjà à essayer de faire une journée after virus, peut-être une reprise after virus, on pourrait se faire une bonne journée tous ensemble. Et je pense qu'on va commencer à préparer un événement comme ça, sans mettre de date, et pour pouvoir essayer de se retrouver, de faire une bonne journée de moto le jour où on pourra au moins rouvrir les activités sportives, même si c'est un groupe réduit, mais au moins pouvoir sortir et se retrouver tous ensemble. Ça fait sur des terrains tout refaits, j'espère qu'on va se régaler.
Ça, c'est. On espère que ce sera le plus tôt possible du coup. Vous avez beaucoup de demandes quand même de personnes qui demandent si le terrain est ouvert, qui aimeraient venir rouler et qui finalement se rendent pas forcément compte de la situation.
Mais en fait, la première semaine, quand la France était un peu décalée avec d'autres pays, la première semaine où on a continué à rouler, puis on roulait, il y avait même des Suédois qui étaient au terrain, tout ça. Et si on dit, ouais, s'ils se confinaient partout, nous, les Suédois, on va dire, ben, nous, on va rester là et tout, en vacances. Et on leur a dit, au bout d'un moment, quand on a eu le discours de Macron, on leur a dit, ben là, les gars, désolé, mais on peut pas vous laisser là, il va falloir rentrer chez vous et tout. Ah bon, ils voulaient rester là, quoi, les gars, ils étaient bien. Et on a eu aussi, toi, Eric Sorbier, tu m'as tapé pour qu'il roule, qui voulait venir au circuit. La semaine, il y a du monde qui voulait venir un peu de partout. Mais bon, on peut pas, je veux dire, ça peut pas se faire. Même si on climatisait le circuit, je veux dire, par les temps qui courent, c'est trop compliqué. Même si dans notre région, on n'est pas encore touche du bois, on n'est pas encore trop impacté pour les hôpitaux, tout ça. Je veux dire, ça va arriver.
Ouais, ça va arriver, bien
on
sûr.
Espère que ça n'arrivera pas, mais je veux dire, on peut pas prendre de risques comme ça et mobiliser des gens alors qu'ils ont d'autres choses à faire. Donc, on prend pas le risque et on laisse tout fermer, chacun reste chez soi. Et puis, on attend un petit peu. Mais c'est vrai que quand il y a des gars comme Kiroli qui appellent pour venir au circuit et tout ça, ça fait râler de leur dire non, restez chez toi, quoi. Mais bon, c'est comme ça.
Bien sûr.
C'est que partie remise.
Bon, et d'un point de vue plus personnel, comment ta famille et toi, vous gérez ce confinement? Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement à gérer?
Ben, pour nous, pas grand-chose, parce que moi, déjà, je travaille tous les jours. Donc, moi, personnellement, ça change pas grand-chose. Je pars tôt, je rentre en fin de journée, donc on est deux, trois, on est trois au travail, à l'atelier, les gars d'atelier gagnent un jour par semaine. Quand il y a besoin, vraiment un peu partout. On est vraiment un petit groupe, donc il y a toujours de quoi s'occuper. Et pour la famille, je crois qu'ils n'ont jamais fait autant de sport dans la cour. Ils suivent les programmes de coaching à distance. On fait des jeux de société. On range les garage, on s'occupe bien. Et pour le moment, les deux premières semaines, on les a pas vues passer.
Ouais.
On a pas mal de cuisines, j'ai la chance de m'accrocher à la maison. Donc, moi, je me plains pas trop. Et puis, j'habite à 100 mètres de 100 mètres du travail. Donc, c'est vrai que c'est.
Ça
pour
aide.
Moi, personnellement, je suis pas à plaindre. On a un peu de place à la maison pour faire pas mal de choses. Donc, je m'estime un peu privilégié par rapport à beaucoup d'autres.
Bon, puis ça sort le KLX aussi un petit peu dans la maison, ça sort des vidéos un peu sympas aussi.
Ah ouais, c'est clair, on s'occupe. Là, c'était le KLX 110. Là, j'ai remis le KLX 125 en route. Là, c'est le... maintenant, on pense, les VTT commencent à faire des trucs, la trial. bon, après, le problème, c'est que ça commence à être dangereux et que
ouais.
on se fait vieux, donc on se motive, mais on reste gentil, mais on s'occupe un petit peu quand même. Et puis voilà.
Bon.
On remet tout le matériel à jour pour la rentrée.
Pour la reprise, on espère rapidement des
ah ouais,
activités.
Ouais. Au plus vite, on espère.
Bon, ça marche. Merci voilà. Stéphane d'avoir été l'invité de ce podcast et d'avoir livré ton expérience, ton ressenti dans cette crise sanitaire avec cette triple casquette. Et puis du coup, on a pris note du rendez-vous à Majesc. Alors, on n'a pas encore la date, mais pour ce petit ride after virus.
Allez, on va préparer ça. Puis merci de bigger ça. À très bientôt.
Ça marche. Allez, à bientôt.
À plus tard. Ciao, ciao.
Ciao.